pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dans la collection Jazz et Blues des éditions Atlas, Artie Shaw n'est pas une perle. C'est un collier de perles à lui tout seul. Il est le plus moderne des chefs d'orchestre de l'ère swing. Artie Shaw n'a pas seulement séduit les sex symboles du cinéma hollywoodien des années 50. Sa musique, raffinée, romantique et moderne, a propulsé le clarinettiste et chef d'orchestre parmi les monstres sacrés de l'ère swing, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir affronté les foudres de l'Amérique bien pensante. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. Avait tous les atouts pour jouir d'une gloire durable, mais c'était sans compter sans une Amérique qui doutait d'elle-même. Les confessions poignantes de musiciens afro-américains en proie à une société raciste et conservatrice laissent penser que leurs homologues de race blanche ont été mieux traités à la fois par l'establishment et le grand public. Les grands orchestres de l'ère swing de Glenn Miller ou des frères Dorsey, dont la mission première semblait être l'exaltation du nouveau rêve américain, n'ont pas rencontré les mêmes obstacles que Count Basie ou que Lester Young et Billie Holiday, pour qui l'existence s'est apparentée à un véritable parcours du combattant. Bien d'autres exemples, en revanche, montrent que le jazz, même au lendemain de la guerre, restait une musique subversive, qu'elle fût jouée par des musiciens noirs ou blancs. L'Amérique, bien que jeune et prospère, fragilisée par la menace communiste, condamna ceux qui, par le biais du jazz, symbolisaient ses paradoxes. Artichaut n'a jamais été un révolutionnaire, encore moins un espion qui œuvrait pour le comte de Moscou. Sa musique, tout en étant d'une grande modernité puisqu'elle allait tracer le chemin au cool jazz, était caractéristique en fait du middle jazz et destinée à satisfaire une Amérique profonde, désireuse de célébrer la victoire du monde libre sur les forces de l'Axe. Quant à sa vie, jalonnée de mariages, avec quelques-unes des stars du 7e art, elle avait plus à voir avec les fastes des studios hollywoodiens qu'avec un quelconque engagement marxiste-léniniste. Artichaut ajoute à son swing une saveur exotique avec Indian Love Call. Il séduisit immédiatement les danseurs et séduit encore les mélomanes. Le saxophoniste ténor Tony Pastor est au chant. Et l'orchestre lui donne la réplique.
That means I offer my love to you to be your own. If you refuse me, I will be blue. I'm waiting all alone. But when you hear my love call ringing clear, and I hear your answering echo so dear, then I will know our love will come true. You belong to me, I belong to you.
Oui, mais voilà, Artichaut a été l'un des premiers chefs d'orchestre à engager des chanteuses et des instrumentistes de couleur. Il a eu le tort, en outre, d'assister à plusieurs meetings du Parti communiste américain, le plus souvent par curiosité et non par intérêt. Il n'en a pas fallu plus pour que, aux yeux d'une Amérique abreuvée chaque jour de nouvelles alarmantes sur les infiltrations et la subversion communiste, il devienne un suppôt de Satan, alors que, au zénith de sa gloire, il s'était engagé dans la marine. Peu de temps après Pearl Harbor. De cette inquisition orchestrée d'une main de fer par le sénateur McCarthy et reprise, voire déformée par les médias, le jazzman en a terriblement souffert. Il l'a révélé dans son autobiographie « Trouble with Cinderella », publiée en 1952. Boris Vian, après la lecture de ce précieux ouvrage, devait écrire « L'homme qui surgit de ces pages est sympathique ». et les blessures subies par le jeune juif Arshowski en présence des préjugés antisémites américains sont décrites d'une façon que l'on n'oublie pas. On comprendra un peu quel effet la broyeuse monstrueuse de la publicité américaine peut produire sur un individu pour qu'il plaque tout d'un seul coup à un moment où il gagne $30,000 par semaine parce qu'il a tout simplement l'impression qu'on lui vole son âme. En réalité, heureusement, personne n'a réussi à voler l'âme d'Artichaut, pas même les lieutenants zélés de McCarthy. Mais cet amoureux de la vie, entendons de la liberté, n'a plus jamais été le même après qu'il eut à se justifier auprès de la commission des activités anti-américaines, un sombre jour du mois de mai 1953. Il n'en a rien été, même après son désir de repartir, d'aller au-delà de l'arc-en-ciel. The Blues est un parfait exemple de la lecture que peut faire un musicien blanc de la spécificité afro-américaine. Grâce au leader à la clarinette, on se trouve ici très proche, en effet, du Dixieland, qui connaîtra bientôt un engouement spectaculaire. Doué, il apprend par lui-même à jouer du saxophone et de la clarinette. Il part en tournée durant presque un an et à son retour se met à étudier le solfège, la composition et l'orchestration. Son travail acharné finit par payer. Après avoir regagné New York durant les Roaring Twenties, il rentre dans l'orchestre de Roger Wolf. Il se mesure alors au pianiste Willie the Lion Smith et au cornettiste Red Nichols. Il commence à gagner pas mal de dollars en travaillant pour la publicité et le cinéma. Malgré tout, le jazz n'est encore pour lui qu'un passe-temps. Au début des années 30, il abandonne la musique pour s'inscrire à l'université, à la suite de quoi il se marie. Mariage qui est aussitôt annulé à la demande de son beau-père. Puis en 1933, Artichaut se retire dans une ferme de Pennsylvanie pour écrire un ouvrage sur le cornettiste Bix Beiderbecke. Il est l'égal du roi du swing. Revenu au jazz dès l'année suivante, Artie Shaw va participer pendant quelque temps à diverses séances d'enregistrement, notamment aux côtés de Bunny Berrigan et Billie Holiday. En 1936, il crée la surprise lorsqu'accompagné par un orchestre constitué par une section rythmique et d'un quatuor à cordes, il se produit sur la scène de l'Imperial Theatre, précisément le 24 mai. Le succès remporté par le Art Show and His String ensemble est immense. Aussitôt, le chef d'orchestre prend le chemin des studios, cette fois avec un big band qui comprend un ensemble à cordes, mais également la clarinette du leader et quatre cuivres au swing irrésistible. Si ce mélange de cordes et d'instruments typiquement jazz a pu au départ en déconcerter plus d'un, il n'en va pas moins conquérir au fil des enregistrements et des prestations un très large public. Quelle est cette chose qu'on appelle l'amour ? Cette nouvelle composition de Cole Porter est un retour au swing, caractéristique des années 30. À noter que pour l'enregistrement de cette plage, réalisée le 27 septembre 1938, le tromboniste Russell Brown et le saxophoniste alto George Koenig ont respectivement remplacé Ted Vesley et Les Robinson. À la fin des années 30, Artie Shaw jouit même d'une popularité comparable à celle de Benny Goodman, que l'Amérique a consacré roi du swing, non seulement comme clarinettiste, mais encore comme chef d'orchestre. Est-ce suffisant pour le jazzman ? En réalité, non. Tout en aimant les défis, il prend conscience que les cordes risquent, à plus ou moins brève échéance, de le mener à l'impasse. Il dissout son orchestre pour en fonder aussitôt un deuxième avec 3 trompettes, 2 trombones, 5 sax et une section rythmique. Cet ensemble accueillera dans ses rangs les chanteuses Billie Holiday et Hélène Forrest et permettra à son leader de concurrencer aussi bien le déjà nommé Benny Goodman et Glenn Miller et Tommy Dorsey que les chefs d'orchestre de race noire comme Duke Ellington, Count Basie et Jimmy Lunceford. La popularité croissante d'Artie Shaw s'est toutefois accompagnée d'une concession de taille. Certains de ses titres ressemblent à s'y méprendre au succès de Goodman et de Basie, ou sombre quelque peu dans la facilité. Mortifié de triompher avec une musique à laquelle il se sent finalement étranger, il décide une fois pour toutes de repartir de zéro et dissout son orchestre. Après qu'il eut fait le point en terre mexicaine, il en met à nouveau sur pied. Celui-ci n'est pas un big band, mais un combo constitué de 5 musiciens. Le Gramercy Five comprendra d'excellents solistes, parmi lesquels le claveciniste Johnny Guarnieri, le tromboniste J.C. Higginbotham, le sax Benny Carter et le trompettiste Henry Red Allen. Il sera parfois enrichi d'une section de cordes. Et voici Traffic Jam, qu'il a composé avec Mac Ray, enregistré à Hollywood le 12 juin 1939. Ça swing très bien du côté des cuivres et des hanches, comme du côté de la section rythmique. Il s'agit là d'un clin d'œil évident au monde des grandes villes et à l'enfer quotidien que doit déjà affronter l'automobiliste. Tire un trait sur son passé récent en revenant à un jazz plus authentique. Les années 40 sont pour le jazzman l'occasion de connaître de nouvelles expériences. Encore. Après la dissolution du Gramercy Five, il reprend des cours de théorie musicale, travaille pour le cinéma, puis forme un grand orchestre avec cordes, baptisé le Artie Shaw and his Symphonic Swing. Il combine avec brio musique dansante et pièces musicales d'atmosphère. Atmosphère quand tu nous tiens. Artie Shaw monte un autre orchestre, cette fois sans cordes, mais avec le guitariste Barney Kessel, les trombonistes Ray Conniff et Harry Rogers, qui signent également les arrangements. Le trompettiste Roy Little Jazz Eldridge, le sax Herbie Stewart et le pianiste Dodo Marmarosa. Si ces diverses expériences sont de toute évidence heureuses, d'autres en revanche ne le sont pas. ces mariages successifs qui se révèlent de douloureux échecs, et plus encore peut-être l'acharnement des ultranationalistes de McCarthy, ce qu'il faut bien appeler des inquisiteurs, poussent en effet Artichaut au bord du gouffre. Aussi, après qu'il eut reformé un grand orchestre, puis le Gramercy Five, choisit-il, profondément dégoûté par tant d'intolérance, de quitter le monde du jazz, espérant trouver le repos dans la ferme qu'il a acquise dans le Connecticut. N'y parvenant pas, il quittera alors les États-Unis pour l'Espagne, où, en comparaison de ce qu'il vient de subir, il vivra 5 années heureuses avec l'actrice Evelyn Keyes. C'est au début des années 60 qu'Artichaut retrouve sa terre natale, mais en dépit d'un documentaire canadien qui lui donne l'opportunité de rejouer de la clarinette, il préférera dès lors se consacrer à l'écriture et à la production de pièces de théâtre. Il cherchera, sans doute aussi, à comprendre pourquoi il a pu susciter tant de haine. Le jazz, pour lui en tout cas, sera une affaire définitivement classée, même s'il acceptera au début des années 80 de présider à la destinée du Artichaut Orchestra, dirigé par le clarinettiste Dick Johnson, et en 85, de remonter quelques jours sur la scène du Half Note. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Roland Richard. Pour vous, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.